Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, service public, le grand abandon. Bonjour, Denis Siffer.
Bonjour.
Votre édito, la guerre, mais jusqu'où ? Point d'interrogation sur la crise en Ukraine. Le maître du Kremlin n'a cure de nous convaincre, écrivez-vous. Il parle au peuple russe.
Oui, parce que son discours, évidemment, est non seulement incompréhensible, mais effrayant pour nous. Parce que c'est un déni de réalité tellement évident que personne ne peut y croire. D'ailleurs, pas même les poutinistes extrêmes ou modérés de droite ou de gauche que l'on a dans la classe politique française et qui pratiquement tous ont désapprouvé, ont condamné même le discours de Poutine et l'intervention militaire qui a suivi. Mais il s'adresse évidemment au peuple russe qui est nourri par une propagande depuis maintenant une bonne dizaine d'années, qui une propagande dans laquelle s'inscrit ce discours, c'est-à-dire que avec sa logique et sa cohérence, qui est la victimisation, disons, de la Russie après évidemment le démantèlement de l'URSS. C'est un discours de grande nostalgie de la puissance passée et de reconquête. Ou de tentative de reconquête de cette puissance.
Oui, vous dites que Vladimir Poutine n'a fait ces derniers jours que militariser un conflit dont l'objet principal est identitaire.
Oui, alors ça c'est effectivement, disons, ce que je veux faire passer comme message principal, disons, dans cet éditorial. C'est-à-dire que on a beaucoup un regard géopolitique, c'est normal. Il s'agit de frontières qui sont violées, de souveraineté qui est contestée, et d'un rapport de force, de violence politique. Mais derrière ça, il y a évidemment l'affirmation identitaire de la Russie. L'identité de l'URSS, elle était évidente, elle était politique, mais à partir du démantèlement de l'URSS, ce pays s'est trouvé en quelque sorte sans identité véritable, et Poutine est allé puiser, disons, dans la tradition grand russe, et ce qui a donné une société très très réactionnaire, très ultra conservatrice. Et il s'est beaucoup allié, disons, aux orthodoxes, à la religion orthodoxe. Je dis même que l'encensoir est devenu en quelque sorte son arme idéologique principale. Et c'est une société de mœurs extrêmement régressive. Et ce qui fait d'ailleurs on comprend tout à fait que Zemmour et Le Pen puissent apprécier cette société et en faire le modèle nationaliste ultra-conservateur de la société française dont ils rêvent. Mais c'est plus compliqué s'agissant par exemple de Mélenchon ou d'autres qui n'ont pas du tout cette vision sociale, sociétale même, et qui pourtant ont des indulgences à l'égard de Poutine. Donc évidemment, c'est vraiment l'affirmation, une affirmation identitaire forte et férocement anti-occidentale. Parce que c'était vraiment le créneau que Poutine a choisi à partir d'une critique de l'Occident. Le problème, c'est que cette critique, pour des gens de gauche, ne peut pas être du tout positive, parce que là où il aurait pu être, en effet, un rempart à l'ultralibéralisme occidental, etc., finalement, il a transformé ça en une qualification de l'Occident en tant que société décadente, et il a puisé, disons, dans l'ultra-conservatisme pour s'opposer, c'est-à-dire qu'il n'a même pas, il ne constitue même pas un refuge pour ceux qui chercheraient, disons, un pôle pour combattre le libéralisme économique occidental.
Vous utilisez le mot viriliste.
Oui, le discours de Meurs qu'il inculque, qu'il diffuse, qui est une reprise en effet finalement de l'époque tsariste, viriliste à tous égards, c'est-à-dire que la société russe, en tout cas le discours dominant, hein, je juge pas les Russes en tant que tels et la Russie en tant que telle, mais elle est homophobe. Par exemple, est très viriliste même parce que c'est toujours l'exaltation de la force. la force, et on le voit même là au plan politique, on le voit avec le traitement des opposants, avec le traitement des journalistes. N'oublions pas que des journalistes sont morts de vouloir faire leur travail d'enquête, et également au plan géopolitique, là pour le coup, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Tchétchénie, et on le voit encore aujourd'hui, et c'est tout ça que recoupe cet adjectif de viriliste.
Et cela confirme que Vladimir Poutine a acquis la certitude qu'il n'y a plus personne en face. Et vous prenez exemple sur la situation en Syrie où les bombardements sur les populations civiles qui se poursuivent aujourd'hui encore n'ont rencontré que des vagues de réprobation morale et beaucoup d'indifférence.
Oui, alors c'est le grand problème qui nous est posé exactement au moment où nous sommes. C'est-à-dire que si Poutine a attaqué, comme il l'a fait, par le verbe d'abord et puis par l'action ensuite, c'est parce qu'il pense qu'il n'y aura pas de résistance en face. Il a pu en effet tester cette résistance, cette absence de résistance en Syrie, où, entre parenthèses, ils continuent de bombarder la région d'Idlib. Et il y a effectivement la débâcle d'Afghanistan pour les États-Unis, et il est persuadé qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, de résistance militaire. C'est d'ailleurs confirmé par les puissances occidentales. Comme on dit, personne ne veut mourir pour l'Ukraine. Donc c'est un problème qui est terrible, parce que c'est le problème, disons, qui nous est posé, hein, d'un pays qui est une dictature, ou pas loin en tout cas, et qui n'a pas de compte à rendre à son peuple, en somme. Alors que les démocraties, évidemment, sont tributaires, et c'est une très bonne chose comme ça, de leur population, et donc on ne va pas en guerre comme ça pour des causes qui apparaissent lointaines. Et donc on peut s'interroger, disons, même pour l'avenir, savoir si ces régimes, et je pense aussi au régime chinois bien entendu, n'ont pas un avenir radieux devant eux, parce que s'il n'y a pas de résistance, on peut aussi imaginer que demain la Chine enverra Taïwan sans qu'il se passe grand chose, et là c'est le cas. Et donc on peut s'interroger sur la pertinence des sanctions économiques, qui peut-être auront leur effet, mais qui sont aussi des boomerangs qui reviennent sur les populations des pays occidentaux, et qui de toute façon ont des effets différés. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas Poutine d'agir dans les prochains jours s'il le souhaite.
Pour vous, le président français, président du Conseil européen, Emmanuel Macron, a joué jusqu'au bout la carte diplomatique, mais il s'est fait balader dans cette affaire, écrivez-vous.
Oui, alors il s'est fait balader, c'est sûr, mais pour le coup, je suis assez peu critique, parce que je pense qu'il pouvait pas faire autrement qu'il a bien fait même d'aller autant qu'il l'a fait à la rencontre de Poutine, d'entretenir le dialogue. Et puis bon, il n'est pas responsable, disons, du retrait de Poutine et de cette façon, disons, de mentir en fait à ses interlocuteurs. Mais en revanche, peut-être qu'il y a quelque chose que là je qualifie plutôt de psychologique, c'est-à-dire qu'il a beaucoup forcé sa communication. Alors là, on pense évidemment à la présidentielle. Il a beaucoup accentué le peu d'espoir qui pouvait naître dans cette histoire. C'est-à-dire, par exemple, il a annoncé très, très prématurément une rencontre Biden-Poutine qu'il aurait obtenue, et finalement il s'est immédiatement heurté, disons, à un retour de bâton. Mais je dirais que sur le fond, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté, d'avoir essayé d'entretenir la flamme diplomatique, disons.
Merci, Denis Seffer.
Merci à vous.
Votre édito, La guerre, mais jusqu'où, point d'interrogation, et la une de Politis, Service public, le grand abandon.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.